La bête humaine, Émile Zola. Pendant un instant, Roubaud s'intéressa, comparant, songeant à sa gare du Havre. Chaque fois qu'il venait de la sorte passer un jour à Paris et qu'il descendait chez la mère Victoire, le métier le reprenait. Sous la marquise des Grandes Lignes, l'arrivée d'un train de Mantes avait animé les quais. Et il suivit des yeux la machine de manœuvre, une petite machine tendaire aux trois roues basses et couplées qui commençait le débranchement du train. Alerte, besogneuse, emmenant, refoulant les wagons sur les voies de remisage. Une autre machine, puissante celle-là, une machine d'express, aux deux grandes roues dévorantes, stationnait seule, lâchait par sa cheminée une grosse fumée noire, montant droit, très lente, dans l'air calme. Mais toute son attention fut prise par le train de 3h25, à destination de Caen, empli déjà de ses voyageurs et qui attendait sa machine. Il n'apercevait pas celle-ci, arrêtée au-delà du pont de l'Europe. Il l'entendait seulement demander la voix, à léger coup de sifflet pressé, en personne que l'impatience gagne. Un ordre fut crié, elle répondit par un coup bref qu'elle avait compris. Puis, avant la mise en marche, il y eut un silence. Les purgeurs furent ouverts, la vapeur siffla au ras du sol en un jet assourdissant. Et il vit alors déborder du pont cette blancheur qui foisonnait, tourbillonnante comme un duvet de neige enveloppé à travers les charpentes de fer. Tout un coin de l'espace en était blanchi, tandis que les fumées accrues de l'autre machine élargissaient leur voile noire. Derrière s'étouffaient des sons prolongés de trompes, des cris de commandement, des secousses de plaques tournantes. Une déchirure se produisit. Il distingua au fond un train de Versailles et un train d'Auteuil, l'un montant, l'autre descendant, qui se croisaient. Comme Roubaud allait quitter la fenêtre, une voix qui prononçait son nom le fit se pencher. « Tiens, monsieur Roubaud, vous êtes donc à Paris ? Ah oui, pour votre affaire avec le sous-préfet ?» De nouveau accoudé, le sous-chef de gare expliqua qu'il avait dû quitter le Havre, le matin même, par l'express de 6h40. Un ordre du chef de l'exploitation l'appelait à Paris. On venait de le sermonner d'importance. Heureux encore de n'y avoir pas laissé sa place. « Et madame ?» demanda Henri. Madame avait voulu venir, elle aussi, pour des emplettes. Son mari l'attendait là, dans cette chambre dont la mère Victoire leur remettait la clé, à chacun de leur voyage, et où ils aimaient déjeuner, tranquilles et seuls, pendant que la brave femme était retenue en bas à son poste de la salubrité. Ce jour-là, ils avaient mangé un petit pain à Mante, voulant se débarrasser de leur course d'abord. Mais 3 heures étaient sonnées, ils mouraient de faim. Henri, pour être aimable, posa encore une question. « Et vous couchez à Paris ?»« Non, non. » Ils retournaient tous deux au Havre le soir par l'express de 6h30. Mais ils ne s'entendaient plus. Un piano endiablé venait d'éclater en notes sonores. Les deux sœurs devaient taper dessus ensemble, riant plus haut, excitant les oiseaux des îles. Alors, le jeune homme, qui s'égayait à son tour, salua, rentra dans l'appartement. Et le sous-chef, seul, demeura un instant les yeux sur la terrasse d'où montait tant de gaieté de jeunesse. Puis, les regards levés, il aperçut la machine qui avait fermé ses purgeurs et que l'aiguilleur envoyait sur le train de Caen. Les derniers floconnements de vapeur blanche se perdaient parmi les gros tourbillons de fumée noire, salissant le ciel. Et il rentra, lui aussi dans la chambre. Devant le coucou qui marquait 3h20, Roubaud eut un geste désespéré. À quoi diable Séverine pouvait-elle s'attarder ainsi? Elle n'en sortait plus lorsqu'elle était dans un magasin. Pour tromper la faim qui lui labourait l'estomac, il eut l'idée de mettre la table.